Ce qui me plaît tant dans le conte, c'est de raconter des histoires. J'aime le théâtre pour ça. On mélange la fiction et réalité. Et ce que j'aime dans le conte, c'est que c'est ancestraux. Donc il y a plein d'histoires qu'on a en soi, des symboles, des choses inconsciemment qu'on possède dans la culture générale. Le chaperon rouge, le loup, les métaphores sur l'acte sexuel. Il y a énormément de symboles en fait et ça m'intéresse de travailler sur ces symboles. Et notamment de jouer sur les clichés, puisqu'il y a énormément de clichés aussi dans les contes. Vu que quand on lit les frères Grimm ou même Andersen, les femmes sont considérées souvent comme passives, comme la Belle au bois dormant, mais il y en a beaucoup d'autres. Notamment un conte des frères Grimm où même elle est tabassée à la fin parce qu'elle parle trop. Et tout le monde est content et à la fin elle meurt sous un oreiller et c'est super quoi. Et donc en fait j'avais aussi envie de travailler sur une héroïne de BD et la tentative c'est de garder un conte puisqu'on l'a en nous et depuis toute petite moi j'entends ces histoires. De garder ce conte-là, d'essayer d'être authentique et sincère avec ce conte, de garder la même trame. Mais ça, c'est ma grosse tentative, c'est d'en faire une héroïne émancipée et libre. Oui, une héroïne de BD, donc il y a les péripéties dedans à l'intérieur où elle se bat contre la déesse mère. Il y a beaucoup, beaucoup de tentatives différentes, notamment aussi sur la gitane, la femme rivale qui n'est peut-être pas une rivale non plus et essayer de voir où se trouvent les méchants et peut-être qu'il n'y en a pas et que chacun a sa position, tout ça. Donc il y a plein de tentatives différentes dans le conte, dont notamment de mettre Andersen dans son propre conte, vu que du coup c'est la petite sirène qui prend la parole pendant au moins 20 minutes. Et donc elle essaye de, à travers la parole, à travers le théâtre, de s'émanciper de sa propre histoire. Bon, je ne sais pas si elle y arrive, c'est à chacun de voir, mais c'est déjà une tentative.
Oui, c'est ça, c'est l'originalité, c'est que vous mettez en scène en même temps le processus créatif, c'est-à-dire Andersen qui est lui-même il est en train d'écrire le conte pendant qu'on le voit se dérouler. Ça me rappelle d'ailleurs un film, L'Histoire sans fin, je ne sais pas si ça vous parle.
Oui, il y a une référence qui m'a beaucoup portée, un dessin animé que je regardais tout le temps quand j'étais petite, c'est Le Roi et l'Oiseau, c'est Prévert. C'était un peu une obsession quand j'étais petite, je le regardais beaucoup et en fait je pense que c'est quelque chose qui m'a énormément inspirée et je pense qu'il y a beaucoup de petites références dedans dont Le Roi et l'Oiseau mais la figure de la fiction qui devient réelle est plus réelle que la réalité elle-même enfin voilà c'est un peu ce que j'ai essayé de faire aussi que Andersen finalement il s'éteigne et qu'on n'est que sa fiction.
Oui, à la fois, au début, c'est Andersen effectivement qui impulse l'histoire de la petite sirène, et après, on peut presque dire que c'est elle qui modifie son histoire toute seule, puisque effectivement, vous l'avez dit, il y a une histoire d'émancipation, et on peut voir ça comme la petite sirène du 21e siècle.
Voilà. Et après, j'ai essayé de travailler aussi sur les sirènes, parce que c'était un sujet qui m'intéressait, l'odyssée d'Ulysse, enfin, tout le rapport au chant, le fait d'être envoûté par quelqu'un, et la figure de la sirène, parce qu'il y a aussi beaucoup la figure de la prostituée, de la femme facile, de la femme qui attire et qui agrippe. Et donc, en fait, il y a beaucoup de sous-couches aussi dans la pièce qui n'est pas que la petite sirène qui les porte, en fait. Mais la gitane aussi, elle porte la figure de la sirène, mais plus la fille facile qui, du coup, essaie elle-même de s'émanciper de ce rôle-là. Enfin, moi, c'était ma tentative, c'était de parler aussi des sujets contemporains en essayant de garder le conte, mais... Elle parle de comment ça se passe dans la rue, les insultes qu'elle peut avoir parce qu'elle est habillée avec un petit débardeur, se faire siffler, énormément de choses dont j'avais envie de parler, beaucoup de choses sur la femme.
Finalement, oui, je me demandais pourquoi vous aviez adapté ce conte précis, même si d'ailleurs vous en êtes assez fidèle. Mais à la fin, c'est comme si elle rejoignait un peu le paradis de par ses actes.
Alors non.
Et alors ma question, bon alors vous allez me dire pourquoi non, mais et du coup oui, je m'aperçois que c'est vraiment l'archétype de la femme qui vous a intéressé dans ce conte. Hein.
Oui, c'est ça, cette tentative-là. Ouais. Et il y a aussi le travail sur les ratés, l'échec. J'ai fait un travail avec les enfants sur ce conte pendant 2 semaines, avec des CM1, CM2 et 6e. Et je trouvais ça hyper beau, on a fait beaucoup de tours sur son premier râteau, le premier râteau qu'on reçoit, et donc l'exploit du premier râteau. Donc chacun racontait le premier râteau, le sentiment de ne pas être aimé, ou le fait d'essayer, parce qu'elle tente, elle se sacrifie, elle fait énormément de choses, elle se bat contre la mer, elle va voir la sorcière, etc. Puis elle arrive sur Terre, et ce qu'elle veut, elle ne l'a pas finalement à la fin. Et le chagrin amoureux, j'avais vraiment envie de travailler sur ça, parce que je trouve ça beau de travailler sur... pas que la réussite. Enfin, dans les Walt Disney, on a souvent ce truc de happy end et tout. Et c'est pour ça que ça m'intéressait la fin aussi, que ce soit triste. Alors, Andersen était très catholique. J'ai lu beaucoup de choses qui est en rapport avec... elle rejoint, donc elle est fille de l'air, elle va au paradis, etc. Moi, c'est pas le cas. Alors, peut-être qu'on peut le lire... dans la fin que j'essaye de retranscrire, c'est notamment l'envie de voyager, le désir de partir. Donc, il y a quand même... Elle se transforme en oiseau, il y a les plumes... Et il y a la transformation, et les sirènes, c'était aussi des oiseaux. Donc il y a le fait d'être de l'eau à la terre et au ciel, et c'est l'acte de grandir. Donc il y a ça. Il y a aussi, ce petit coucou là, ça m'a intéressée, je ne sais pas pourquoi. J'ai regardé dans les symboles après, parce que c'était un truc qui me restait. Mais c'est un rapport avec la réincarnation, la mort. En tout cas, j'avais envie de parler de la mort. Mais d'une manière positive aussi, qu'il y ait un élan à la fin, si c'est une mort, ou alors juste elle se transforme en oiseau. Moi, j'essaye d'avoir un peu la version des enfants. Du coup, c'est plus, elle se barre en fait, elle en a marre, elle va voir ailleurs. Il y a quand même le fait de traverser les continents, de partir en Afrique, de voyager, l'aventure en fait, de garder ce côté aventurière. Elle l'a beaucoup dans la première partie, mais c'est pas le paradis pour moi, cette fin.
Alors, vous avez parlé des acteurs, justement. Est-ce que vous avez écrit cette pièce en pensant à des comédiens précis? Parce qu'il y en a plusieurs qui viennent aussi de la comédie, et donc qui étaient élèves avec vous à l'époque.
Oui. Exactement. En fait, ce sont des comédiens avec qui j'ai travaillé la plupart au moins 2-3 ans en tant qu'actrice, où on était ensemble à la comédie. Donc forcément, ça crée des liens, de l'amitié et des envies, du désir de travailler ensemble. Et je viens d'une promotion où notre marraine de promotion, c'était Marion Aubert, et elle écrivait pour nous. On faisait des impros et puis le lendemain, elle revenait avec des grands textes pour nous. Et du coup, je pense que ça m'est resté en tout cas. Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent chez les acteurs, donc je prends... je sais pas, Martin, il a des grands yeux, ça m'a fait penser à un crapaud, mais... Il se moque toujours, mais il y a des énergies de comique un peu qui m'attirent. Léa, quand elle joue la sorcière, elle a un rythme très rapide. Et donc, du coup, dans mon écriture, c'était assez effréné au niveau des monologues qu'elle avait. Tibor, il est très, très grand. Le capitaine, il y avait quelque chose qui m'inspirait. Andersen aussi, parce que des fois, il parle. Il a un petit côté vieux français quand il s'exprime. Puis, il a l'accent suisse. Enfin, il y a plein de choses qui se mélangent, dont vraiment les acteurs qui m'ont beaucoup inspiré, soit dans leurs états, soit dans l'énergie qu'ils dégagent.
On peut dire que c'est un conte moderne. Adapté à la modernité parce qu'il est très rythmé et que ça plaît beaucoup aux enfants en fait.
Oui, quand je vais voir les classes et que je leur demande s'ils aiment le théâtre, s'ils s'ennuient au théâtre, on lève beaucoup la main quand on s'ennuie au théâtre, etc. Est-ce que vous aimez lire? On aime pas lire. Est-ce que vous aimez écrire? Non. Enfin, il y en a, oui, faut pas faire de généralité, mais est-ce que vous aimez le rap? Et là, tout le monde lève la main. Et moi, j'essaye d'associer quand même mon écriture au rap. Il y a beaucoup, beaucoup de métaphores, d'images et de rythmes qui avancent comme ça. Et j'ai beaucoup écouté de rap quand j'étais ado, j'en écoute encore. Et je pense qu'il y a quand même le plaisir de la parole. Je suis pas une autrice qui rédige dans son bureau toute seule. J'entends les mots, c'est vraiment de la parole, c'est très organique pour moi. Je lis à voix haute. Et donc oui, pour ça, c'est le rythme qui me guide, ouais.
Alors peut-être une dernière question pour conclure. À un moment dans la pièce, donc elle sort de l'eau et elle cherche des oiseaux et en fait elle ne trouve que des sacs plastiques. Elle croit que c'est une méduse, en fait c'est un sac plastique. Donc effectivement, c'est vraiment... On voit d'ailleurs dans le décor, il y a vraiment des sacs plastiques partout autour de la plage en fait.
Oui, alors ça c'est la dernière thématique qui m'intéressait, c'était aussi parler de l'écologie. Ça, je ne sais pas si c'est à cause du conte, je pense que c'est plus moi quand j'entends les médias, et j'ai l'impression que c'est vraiment hyper important en ce moment, et notamment les oiseaux. J'avais regardé un reportage où en fait il y a énormément d'oiseaux en espèces en voie de disparition en France, un pourcentage mais très très élevé, notamment à l'industrie intensive et au fait qu'il n'y ait plus d'arbres pour qu'ils puissent se développer. Et donc tous les oiseaux que j'ai cités, ce sont des oiseaux qui sont en espèces en voie de disparition. J'en ai cité beaucoup, vous avez vu, je ne les ai pas tous cités, mais cette histoire d'oiseaux, de mort, le fait que la mer, ça soit aussi le plastique. On parle du sixième continent maintenant, je pense que moi, quand j'étais jeune, on m'en parlait peu de l'écologie. Pourtant, je pense que ça aurait été important qu'on m'en parle plus. Donc j'ai l'impression que... Les enfants, ils sont là aussi pour commencer le travail, en fait. Enfin, on est très en retard à ce niveau-là. Du coup, je trouve ça super d'en parler, en fait.
D'ailleurs, à un moment, quand vous dites y a quelque chose qui est noir autour de moi, c'est gluant, et j'ai entendu derrière une petite qui a dit « c'est le pétrole ».
Oui.
Donc je me suis dit « ah, c'est quand même, ils sont très conscients et très au courant ».
J'ai l'impression que nous, ma génération en tout cas, on était moins éveillés à ça. Et l'oiseau, c'est aussi la figure poétique. Il y a un poème qui dit « l'oiseau continuera de chanter, mais du coup, si les oiseaux meurent et s'il n'y a plus d'oiseaux, comment on va faire ?» Voilà. C'est un sujet qui m'obsède aussi, en tout cas, le rapport de l'humain à la terre, à l'écologie, tout ça.
Très riche, hein, on le voit, et donc ça promet pour l'avenir. On vous souhaite une brillante suite, et merci beaucoup.
Merci beaucoup.